Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
À toutes et à tous, bonjour. En ce mercredi 19 mai 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. 6 bases aériennes israéliennes frappées par intermittence par les missiles Qassem, Badr 3 et Ayash 250, et pas des moindres. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, les avions de combat et les chars israéliens ont mené de nouvelles attaques contre la bande de Gaza, 10e jour des frappes sur le territoire assiégé. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Iyad al-Maliki, a exhorté la Cour pénale internationale à enquêter sur les crimes de guerre d'Israël. Et puis le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les pourparlers en cours pour relancer l'accord nucléaire de 2015 finiront par la victoire du peuple iranien. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les avions de combat et les chars israéliens ont mené de nouvelles attaques contre la bande de Gaza, 10e jour de l'agression du régime contre le territoire assiégé. Les dernières attaques israéliennes ont frappé le centre de la bande de Gaza et le nord de la ville de Gaza où au moins 2 Palestiniens, dont le journaliste Youssef Abu Hossein, ont été tués. Les morts portent à 219 le nombre de Gazaouis tués depuis le début de l'agression israélienne. Près de la moitié des victimes sont des femmes et des enfants. À ce jour, plus de 1500 Palestiniens ont également été blessés. Les Nations Unies affirment qu'environ 450 bâtiments ont été détruits lors des frappes aériennes israéliennes. La question israélienne a provoqué le déplacement de plus de 52 000 Palestiniens. Les Palestiniens de la Cisjordanie occupée ont massivement participé aux funérailles de 3 personnes qui ont été tuées par les forces israéliennes. Un cortège funèbre a eu lieu à Ramallah pour les 3 personnes tuées mardi dans la ville. Ils ont perdu la vie lors des manifestations contre l'agression continue d'Israël contre la bande de Gaza. Un autre Palestinien a également été tué par les forces israéliennes lors des manifestations similaires dans la ville d'Al-Khalil, connue sous le nom d'Hébron. Les tensions sont restées vives en Cisjordanie occupée et à Al-Quds au cours des 2 dernières semaines dans un contexte de répression meurtrière israélienne. Selon les autorités palestiniennes, jusqu'à présent, 2 douzaines de Palestiniens ont été tués. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Iyad al-Maliki, a exhorté la Cour pénale internationale, CPI, à enquêter sur les crimes de guerre d'Israël. Maliki a fait appel dans une lettre adressée au bureau du procureur de la CPI. Il a appelé à la responsabilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui continuent d'être commis en Cisjordanie, à Al-Quds et dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies a critiqué le Conseil de sécurité pour son inaction à l'égard d'Israël. Mansour a fait ses commentaires à la suite d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Palestine. Il a appelé l'ONU à lancer un appel d'urgence à l'aide humanitaire au peuple palestinien à Gaza. Lors de la même réunion, le représentant algérien auprès de l'ONU a également critiqué la communauté internationale pour être restée sourde et silencieuse face au tollé du peuple palestinien. Le Conseil de sécurité a tenu sa quatrième séance mardi, mais il n'a pas réussi à parvenir à un consensus sur la violence israélienne en raison de l'objection des États-Unis. La Chine a déclaré que les États-Unis avaient empêché le Conseil de parler d'une seule voix. Sachez également que lors d'une conversation téléphonique avec le président de l'Assemblée koweïtienne, Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a critiqué le mutisme des institutions internationales face aux crimes du régime sioniste. Dans un entretien téléphonique avec son homologue koweïtien, le président de l'Assemblée islamique d'Iran a appelé le meurtre de femmes et d'enfants palestiniens une douleur commune de tous les pays islamiques et a déclaré « Le silence de la communauté internationale, des organisations humanitaires et des Nations unies face aux crimes sionistes est un fait étrange ». Les manifestants ont défilé dans différentes villes des États-Unis en solidarité avec le peuple palestinien. Les manifestants sont descendus dans les rues de la ville de Dearborn, dans l'État du Michigan. Ils ont condamné les frappes incessantes de Tel Aviv contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Les manifestants ont également dénoncé le soutien sans faille des États-Unis au régime israélien. L'actualité iranienne s'est également marquée par les élections présidentielles et l'accord nucléaire de Vienne 2015. Le président Hassan Rouhani a déclaré que les pourparlers en cours pour relancer l'accord nucléaire de 2015 finiront par la victoire du peuple iranien. Hassan Rouhani a déclaré que les ennemis de l'Iran avaient déjà avoué leur défaite dans leurs mesures contre la République islamique d'Iran. Cela montre, a-t-il insisté, que le gouvernement a évolué dans la bonne direction. Mettant d'autre part en relief l'importance régionale et mondiale de l'élection présidentielle en Iran, Hassan Rouhani a souligné lors d'une réunion du cabinet « L'élection présidentielle est suivie de près au niveau international et le 18 juin, jour de la tenue des élections. Tous les pays du monde entier sont focalisés sur l'Iran », a-t-il dit. Sachez également que 200 députés du Parlement iranien ont insisté sur la levée de toutes les sanctions. Dans une déclaration officielle, 200 députés de l'Assemblée iranienne ont insisté sur la ferme position de l'Iran dans les négociations de Vienne concernant la levée de toutes les sanctions imposées contre Téhéran. Ces déclarations des représentants du peuple iranien, lues aujourd'hui lors d'une séance publique de l'Assemblée islamique, se lit comme suit. En même temps que les négociations de Vienne avancent, l'Assemblée islamique souligne la politique de la République islamique d'Iran selon laquelle la levée effective de toutes les sanctions est la condition clé pour que l'Iran retourne au respect total de ses engagements nucléaires suspendus partiellement suite au retrait unilatéral et illégal des États-Unis de l'accord nucléaire en 2018. Enfin, tournée européenne de Zarif, étape Irlande. Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, est arrivé à Dublin, en Irlande, dans le cadre de sa tournée européenne. Le chef de la diplomatie iranienne s'est déjà rendu en Espagne et en Italie. Lors de son déplacement à Madrid, Zarif a rencontré Arantxa González, ministre espagnol des Affaires étrangères, et Reyes Maroto, ministre espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. En Italie, Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, a rencontré Luigi Di Maio, son homologue italien, aussi bien que Roberto Fico, président de la Chambre des députés italienne, et Vito Rosario Petrocelli, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat italien. Zarif a également rencontré le pape François au Vatican. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Israël, dernières évolutions. 6 bases aériennes israéliennes frappées par intermittence par les missiles Qassem, Badr 3 et Ayash 250 et pas des moindres. À la rumeur persistante que colportent les médias mainstream, qui dit que le Hamas aurait accepté une trêve sous médiation du trio Sisso-Tamim-Erdogan, a donc répondu, comme le souligne Ori Gourdin, commandant du front intérieur d'Israël, plus de missiles tirés en cette nuit du 18 mai que tous les missiles tirés sur Tel Aviv en 2014. Côté de la résistance, la dynamique superbement déclenchée de consolider la règle d'engagement, laquelle, tout compte fait, va nettement en défaveur de l'entité, reste donc irréversible. Mardi, le 18, les bases aériennes israéliennes de Tel Nof, Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Ramon et Palmachim ont été ciblées tour à tour par des missiles de courte et de moyenne portée de la résistance, qu'Al Ufpen, visiblement sous le choc, identifie comme étant de redoutables Fajr 5 iraniens et qui ont pénétré Gaza avant d'y être démontés puis remontés sans que le renseignement de l'armée ou les services de sécurité intérieure Shin Bet soupçonnent la moindre chose. Tout au long des années où la Syrie se faisait bombarder et où on se vantait d'avoir réduit au cendre les missiles iraniens en partance du Liban, les Palestiniens s'entraniment à nous réserver la pire surprise de notre histoire, en Syrie même, alors même qu'avec la guerre civile, on était bien tranquille que le pont Gaza, Damas et à jamais coupé, dit Haaretz, avant d'ajouter. Dès les premières heures du 10 mai, J+1 de la guerre, Qassem et Al-Rawz ont commencé à utiliser Fajr 5, nom de code militaire M75 et Burkan A-122, qui pénètrent plus profondément en Israël et offrent un coup de poing beaucoup plus puissant que tous les autres engins déjà utilisés contre Israël. Pour la première fois, mercredi soir, le 11, un Fajr 5, un produit iranien à longue portée de calibre 333 mm, monté sur un châssis de commande avancé Mercedes-Benz 2631, a visé Israël. Cette fusée pèse une tonne, son ogive est emballée avec 175 kg d'ogive à fragmentation, contenant 90 kg d'explosifs. Les ingénieurs des fusées du Hamas ont réduit sa charge utile pour étendre la portée du Fajr à 170 km, c'est-à-dire jusqu'au rivage de la mer de Galilée dans le nord-est d'Israël, alors le projectile n'a qu'une portée de 75 km à l'origine. Cela veut dire très clairement qu'à Gaza, il existe des usines à fabrication de missiles, usine qu'aucun des centaines de raids menés ces derniers jours n'a pu atteindre, renvoyant droit à la méga déculottée israélienne en Syrie. Et puis à bien y regarder ces Fajr 5 que les Palestiniens ont fait leur, ont un message à délivrer, celui du Hezbollah qui en possède de bien plus grand nombre et de meilleurs Fajr 5-6 équipés de kits La Bec 1 ou de guidage de GPS. Bien que le rôle principal de ce système d'artillerie soit l'engagement de cibles terrestres, le CGRI a affirmé qu'un radar peut être ajouté pour atteindre des cibles navales et c'est ce qui semble avoir été fait encore à Gaza que le lundi a frappé une corvette israélienne de type char, peut-on après avoir envoyé un sous-marin piégé. Une première encore jamais vue dans aucune bataille se verrait exploser sur le champ gazier offshore Tamar 2. Et le journal ne croit pas si bien dire, au fait, la famille de missiles iraniens Fajr, qu'on pourrait soupçonner désormais être fabriquée à la fois au Liban et en Syrie, compte une variété propre à contourner les meilleures batteries de DCA de l'arsenal israélien. En mai dernier, un an pile avant que cette 14e confrontation Israël-Gaza n'ait lieu, le CGRI dévoilait un certain Fajr 4CL en engin, supersonique d'une portée de 100 km et à embarquer sur des hélicos et des Sukhoi, si largement présents au sein de l'armée de l'air syrienne. Monté sur Su-22 iranien, le missile Fajr 4CL, qui suit un trajet en courbe au lieu d'être rectiligne, qui prend ainsi son envol et s'abattre avec une plus vitesse et une grande puissance de frapper sur la cible, a été testé et les Iraniens se sont félicités d'avoir converti en roquette de 133 mm en un missile air-sol qui fonctionnerait bien meilleur que les missiles de croisière d'Elila made in Israël. Au fait, tout porte à croire que ce bouclier antimissile Rafael Lockheed Martin date de l'époque où personne n'aurait cru que des partis apparaissent osant frapper les États-Unis et Israël, comme le font l'Iran et ses alliés, d'où ce plafond de 100 missiles à intercepter qui limite gravement l'action du système, car 100 plus 1 missile a contré tout le mécanisme de dents de fer. Puis ce dispositif aussi vanté qu'il soit est long à remballer, ce qui permet à la partie d'en face de multiplier et d'intensifier le feu. Quant au prix de chaque missile antimissile Tamir, on en a déjà parlé, cela coûte de 40 000 à 100 000. Le problème est que le camp d'en face, dont le renseignement israélien prétend savoir tout, a une parfaite connaissance de nos failles et il les exploite à merveille. Le J plus 10 du conflit semble avoir totalement enterré notre DCA, car les missiles Qassem, Ayash 250 et Badr 3 de Gaza se sont abattus par intermittence sur les 5 plus grandes bases aériennes d'Israël, sans que la DCA lève le plus de voix.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des crimes commis par Israël contre la Palestine et particulièrement de la France. En effet, malgré l'interdiction des rassemblements en France, des dizaines de milliers de Français ont crié leur colère contre le crime commis par Israël contre la Palestine. Un bilan provisoire qui fait état de 140 morts, dont 40 enfants. Alors, les forces de l'ordre en France n'ont pas pu faire grand-chose. Des jets de projectiles, des gendarmes blessés, des jets de gaz lacrymogène et beaucoup d'arrestations, donc qui a fait beaucoup de bruit, donc n'ont pas empêché des Français à crier leur haine contre les tensions qui règnent en Palestine occupée. Voilà, alors la situation est très grave et trop importante même pour que les Français se taisent. Voilà. Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs et à toute l'équipe.
Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour également à M. Arnaud Develay, juriste international et expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. M. Develay, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à l'équipe de Page TV, bonjour aux auditeurs et bonjour à M. Hugon.
Un plaisir d'être avec nous, et donc pour nous d'être avec vous, bien sûr. Et ma première question va s'adresser à M. Philippe Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, est-ce qu'on peut dire vraiment que la France, le gouvernement français est complice dans ce qui se passe en Palestine occupée, les crimes commis par Israël contre la Palestine? Car les Français, enfin, le gouvernement français ne laisse pas les manifestants pour de crier leur colère et leur haine contre les crimes commis par Israël.
Oui, ben, il est clair que la France collabore avec Israël sur les questions de sécurité nationale d'Israël. Depuis des dizaines d'années, il n'y a rien de très nouveau dans cette politique menée par la France. Quant à interdire des manifestations qui défendent les principes mêmes de la de l'existence du territoire palestinien, moi je trouve ceci assez scandaleux. On autorise des tas de manifestations dans des tas de domaines différents. On sait très bien que dans ces manifestations, il y a quelquefois des éléments perturbateurs, mais pas une raison suffisante pour interdire une manifestation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une décision politique de vouloir interdire et de museler une fois de plus les Palestiniens. Mais ceci ne résout pas les problèmes. On a l'habitude en France de faire l'autruche et de se cacher, et de se voiler la face, de se cacher les yeux devant une situation qui n'est plus contrôlable aujourd'hui. Donc je pense aujourd'hui qu'il est nécessaire que la France revoie sa politique étrangère et soutienne au contraire un processus de paix envers Israël et les Palestiniens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et depuis 60 ans maintenant, et bien aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un centimètre sur ce dossier, et Israël ne désire absolument pas trouver un processus qui permettrait d'apporter la paix dans la région.
Tout à fait. Merci. Monsieur De Vollet, alors ma question va s'adresser à vous. Alors, le fait d'interdire les rassemblements en France, bien sûr, il y a cette crise sanitaire et les lois sanitaires qui empêchent toute manifestation en France. Mais on a une façon très particulière de réagir face à ces manifestants qui manifestent contre Israël. Qu'en pensez-vous ?
Bah, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand vous dites que les manifestations sont interdites à cause de la crise sanitaire, il y a eu des manifestations autorisées durant la crise sanitaire. Sauf que ce sont des manifestations où, en termes de narratif, cela procède d'une forme d'ingénierie sociale dont profite le gouvernement. Donc, c'est tout à fait quelque chose à souligner. Maintenant, en ce qui concerne l'interdiction prononcée par le ministère de l'Intérieur concernant les manifestations pro-palestiniennes, il faut garder à l'esprit que tout ça a ses origines suite à ces manifestations avaient été extrêmement soutenues et avaient embarrassé le gouvernement français de l'époque. Et on sait que la ministre de la Justice de l'époque, Madame Ali-Bari, avait emboîté le pas aux associations sionistes en France dans leur tentative de mettre une équivalence sémantique et juridique entre l'antisionisme et l'islam. Donc, de facto, cela a permis au pouvoir politique en France, sous l'influence de ces lobbies, de pouvoir trouver un tour de passe-passe en mettant l'équivalence entre les manifestations à venir, donc celle de 2014, lorsque l'État sioniste avait attaqué la bande de Gaza, ou à l'époque, sous le prétexte juive avait attaqué à Sarcelles une manifestation pro-palestinienne. On voit aujourd'hui que c'est ce précédent que Darmanin a utilisé pour prévenir en amont toute manifestation pro-palestinienne sur le pays. Mais ce que cela révèle, c'est que la France n'est pas neutre. La France, parce que sa classe politique, tout bon confondu, collabore effectivement activement avec l'État sioniste, que ce soit pour des questions géopolitiques, que ce soit pour des questions presque idéologiques, et que ce soit pour des questions de vente d'armes. N'oublions pas que l'un des plus gros exportateurs de vente d'armes en France, la famille Dassault, a fourni l'État sioniste en chasseurs depuis des décennies, et d'autres systèmes de défense militaire de manière générale. Donc il y a des gros enjeux sur plusieurs axes qui fait que la France aujourd'hui, en Occident, est probablement le pays le plus sionisé après les États-Unis.
Oui. Monsieur Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec la prise de position de Monsieur De Vollet quand il parle d'une France qui est plus proche d'Israël que des autres pays de l'Union européenne ?
Ah ben oui, là, de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, la France est très, très proche d'Israël. Elle l'a toujours été, si vous regardez bien, puisqu'on s'est toujours rangé derrière les positions états-uniennes. Moi, je garde quand même une lueur d'espoir pour les années qui viennent, puisque je pense qu'il sera de plus en plus difficile pour Israël de cacher ses crimes et pour l'Union européenne, les États-Unis, la France, de pouvoir défendre des positions qui deviennent indéfendables. Alors on parle de régulièrement de personnes tuées dans la bande de Gaza. Il est vrai que Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Donc comment la communauté internationale peut tolérer une chose pareille? Alors évidemment, Israël fait toujours jouer cette culpabilité dont elle joue d'ailleurs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est quelque chose, cette culpabilité qui va disparaître puisqu'elle est surtout générationnelle, puisque plus on avance dans le temps et moins les Israéliens pourront utiliser comme excuse ce problème de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils perdent maintenant toute crédibilité sur la scène internationale et il faudra bien qu'Israël change sa position en politique étrangère, puisque si elle ne le fait pas, Israël n'existera plus dans 20 ans, tout comme n'existera plus dans 20 ans les États-Unis sous la forme que l'on connaît actuellement. On voit déjà des États comme la Californie et le Texas qui demandent leur indépendance, puisqu'il y a aux États-Unis une grande diversité culturelle, et c'est un pays qui devra se fractionner, certainement sous une sorte de confédération, mais qui se fractionnera en plusieurs entités. Et c'est quelque chose qui, avec les difficultés économiques, font qu'ils ne pourront plus soutenir Israël comme ils le font. Et la France, qui est un pays en faillite financière, ne pourra plus continuer encore très longtemps à soutenir Israël comme on le fait actuellement. Il faut savoir qu'en France, on a des avions de chasse dont la moitié ne sont plus en état de vol parce qu'on n'a pas de quoi acheter des pièces détachées d'avions, ce qui est une situation totalement ubuesque de voir une chose comme ça pour un pays qui se prétend être une grande puissance mondiale. Donc tout ceci fait beaucoup rigoler aujourd'hui et on va assister dans les 10 ans qui viennent à des bouleversements que l'on n'imagine même pas aujourd'hui sur la scène internationale. Et si Israël, je dis bien, ne change pas sa position, Israël est condamné à disparaître.
Oui. Arnaud Develay, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Hugon quand il parle de la France qui ne devrait pas écouter, comme avant, Israël? Alors, qui dit écouter Israël dit écouter les États-Unis. Donc, Macron va continuer d'accepter aveuglément ce que Israël et les États-Unis lui dictent?
C'est pas tant une question de personnes, c'est une question de réseau en France. La France fonctionne au travers des réseaux qui la contrôlent. Et le réseau sioniste, parmi ces réseaux, est un réseau très puissant en France. M. Hugon le soulignait, à l'exception de la parenthèse gaulliste, la pénétration a été systématique et omniprésente dans les institutions. Vous ajoutez à cela la propension de certains politiques français à vendre les intérêts bien compris du pays pour promouvoir leur carrière, et vous avez un cocktail désastreux. Là où je partage le constat de M. Hugon sur l'évolution en Occident des sociétés de manière générale, que ce soit au niveau démographique, au niveau culturel, je ne partage pas son optimisme dans le sens où je pense que nous sommes en présence d'une reprise en main qui verra quelque part un narratif imposé en Occident, peut-être sous couvert bien sûr de la crise sanitaire, où certains réseaux pour pouvoir maintenir leur contrôle essaieront de transférer, si je puis dire, la réalité sur le terrain tel qu'elle existe à Gaza en Occident justement. C'est ce que je vois, moi. Et d'ailleurs, Éric Zemmour, le polémiste français, ne s'en est pas privé de l'expliquer. Il a écrit même un livre en 2016 qui s'appelait « Les suicides français », dans lequel il fait référence à ce qu'il appelle, lui, je cite, « des enclaves islamisée, où il laisse entendre que, avec l'aide des conseillers militaires israéliens, l'armée française a mis au point un plan qui répond au nom de code RONS. Donc le protocole est en place. Tout ce qu'il leur faut maintenant, c'est de faire monter la sauce et utiliser la stratégie de la tension. Et à l'aune peut-être des élections, ce qui allait juger utile par les vrais tenants du pouvoir en France, le soir de l'élection de Marine Le Pen, on pourrait avoir une explosion sécuritaire, sociale à travers tout le pays, qui ensuite justifierait l'intervention de l'armée, et donc se faisant la fin des libertés civiles en France, mais toujours sous contrôle sioniste. Parce qu'en fait, on passe d'une période dite du social-sionisme à une période qui sera dénommée le national-sionisme. Mais à la fin, en fait, ça reste une opération sous contrôle sioniste. La France, bien compris, les intérêts français bien compris, n'existent plus en tant que tel.
Très juste. Monsieur Hugon, votre réaction, je vous prie.
Oui, ouais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, malheureusement. Je pense que c'est tout à fait juste. Mais moi, je garde toujours, comme je vous le disais, cette lueur d'espoir. Et c'est un élément que néglige totalement Israël. C'est l'évolution de la société palestinienne. Donc, s'ils avaient affaire, il y a quelques dizaines d'années, à des éleveurs, à des gens qui n'avaient pas fait d'études et sur lesquels ils avaient une mainmise assez facile, ce ne sera plus le cas dans les prochaines années, puisqu'on a maintenant des Palestiniens qui sont des universitaires, qui sont des scientifiques, qui sont... Et moi, ce que je crains le plus maintenant, ça va être la radicalisation d'une nouvelle génération de Palestiniens, et qui pourront peut-être utiliser contre Israël des armes beaucoup plus dangereuses que ce qui est utilisé aujourd'hui. Et Israël, quelque part, aura cherché des ennuis dans le sens où ils n'auront pas essayé de développer un processus diplomatique et un processus de paix qui permettra de faire avancer la situation. Et comme je vous le disais, j'ai cette lueur d'espoir dans le sens où je le souhaite que la classe politique israélienne change, bien que j'ai malheureusement beaucoup de résistance à le croire, mais je le souhaite malgré tout de façon à ce qu'on trouve une solution durable dans la région.
Oui. C'est très peu probable que Israël trouve une solution pacifique dans cette tension. Monsieur De Vollet, pour quand même terminer, on a l'impression que le gouvernement français ignore totalement, par exemple, ces 140 morts, dont 40 enfants, et ignore les cris donc, des manifestants contre ces crimes commis par Israël.
Alors d'abord, permettez-moi de rectifier, on n'est pas à 140 morts, on a dépassé le cap des 200 morts maintenant, oui. Déjà, en une semaine d'offensive. Et pour répondre à votre question, non, le gouvernement français est parfaitement au courant dans les détails les plus spécifiques de la situation sur le terrain. C'est juste que, comme je le disais auparavant, c'est une classe politique qui, soit pour des raisons d'avancement personnel, doit exercer ou respecter une certaine ligne, qui est une ligne pro-sioniste en France, en tout cas.
Quelle raison personnelle vous citez, enfin vous parlez, M. De Vollet ?
Pour moi, il y en a deux, il y en a trois. Ça peut être des raisons purement idéologiques où ils sont en accord complet avec le projet sioniste dans la région. Deux, ça peut être des chantages, parce qu'on sait maintenant par les réseaux extrêmes que le Mossad a incité toutes les classes politiques occidentales depuis des décennies à ramasser des dossiers sur tous ces gens-là et s'est servi des plus vulnérables pour les élire, à financer leur campagne, les mettre en place afin qu'ensuite les politiques menées soient celles qui correspondent à l'agenda sioniste. C'est le deuxième. Et le troisième, probablement des dossiers qui portent sur... comment dirais-je, l'opération qui aurait pu être faite plutôt dans la carrière politique de ces gens. Je pense notamment à Elbaz, qui avait pris une position plutôt pro-palestinienne en 2002 lorsqu'il était maire à Évry, et qui, dans les années qui ont suivi, a complètement viré bord. Voilà, pour des raisons donc personnelles, pour des raisons d'avancement personnel et d'ambition politique personnelle.
Oui. Monsieur Hugon, excusez. Donc, les intérêts de France sont si énormes d'être si proche d'Israël, donc d'aller jusqu'à ignorer totalement ce qui se passe en Palestine et les cris des manifestants en France même.
Ah ben oui, tout à fait. D'ailleurs, on parle là aujourd'hui de 140 morts, dont 40 en France. On ne verra jamais un politique en parler à la télévision. Je pense qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par le fait qu'il y a 140 morts. Il y a une indifférence envers la Palestine qui est effrayante. C'est bien d'ailleurs le problème qui va créer cette radicalisation au niveau de cette nouvelle génération et qui risque d'avoir une position extrêmement dure envers Israël et surtout de pouvoir fomenter là des attentats qui vont être extrêmement meurtriers puisqu'on n'utilisera plus des armes mais des virus. Et pour eux, ce sera une question de survie et une question d'honneur de venger un petit peu, même si ce n'est pas une très bonne chose, mais de venger également les morts palestiniens. Et ces morts palestiniens arrivent dans un contexte d'indifférence générale, que ce soit en France ou aux États-Unis. On ne parle jamais des dommages subis par les Palestiniens, ce qui est absolument incroyable aujourd'hui, au 21e siècle, qu'il y ait une telle indifférence.
Monsieur Develay, votre position, je vous prie.
Oui, ben écoutez, moi je pense que malheureusement, comme je le disais précédemment, on se dirige vers la suppression totale des libertés et de la fin de la démocratie et donc de la sionisation de l'Occident. C'est la course en avant, la fuite en avant de toute façon, qui a toujours prévalu quant à la façon dont l'État sioniste perçoit son environnement immédiat sécuritaire lorsque le narratif qui lui est imposé est tout d'un coup hors de contrôle. Donc il applique, si je puis dire, la fuite en avant. Et ce qui m'amène à conclure en disant que de toute façon, cette situation, cet état de fait, cette absence totale de liberté d'expression et surtout cette hypocrisie des classes politiques occidentales est presque à la limite qu'un épiphénomène. Le front principal qui est dans la région du Moyen-Orient et c'est la résistance, l'acte de la résistance qui va régler le problème d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'autre solution. Une fois que la tête du serpent aura été éliminée, la situation en Occident retrouvera une forme de normalité.
Mais M. Hugon a parlé tout à l'heure que plus on avance, Israël a moins d'influence sur l'Union européenne et des politiques donc, contre ce qu'ils pensent d'être juste. Mais vous pensez que dans les années à venir, ça sera le contraire?
Alors oui, moi je pense qu'il y aura une prise de conscience. Elle est déjà présente en France. Hein. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les démocraties européennes ne sont plus des démocraties. La France n'est plus une démocratie, c'est une dictature financière. C'est-à-dire que Macron, ce n'est pas un président, c'est un homme de paille qui est manipulé par des financiers, mais lui, personnellement, il n'a aucune conviction politique. Il suffit de le regarder physiquement pour comprendre que vous avez un homme qui a le charisme d'une boîte de conserve. Donc on ne peut pas prendre cet homme pour un président. Ce n'est pas de Gaulle. Donc obligatoirement, nous aurons des politiques qui seront, depuis d'ailleurs plusieurs décennies maintenant, des politiques qui sont aux ordres des financiers. Donc aujourd'hui, ce sont les intérêts économiques qui dirigent le monde et qui dirigent bien sûr la politique de l'Occident. Alors comme je vous le disais, cette lueur d'espoir, c'est qu'il y ait cette prise de conscience. Mais je pense qu'elle va petit à petit se mettre en place. Il faut malheureusement beaucoup de temps pour faire évoluer les choses, mais les choses vont évoluer. Il est clair qu'aujourd'hui, même si Israël continue de massacrer des Palestiniens, il ne peut plus le faire dans une totale impunité. Et ils le font encore aujourd'hui parce qu'ils bénéficient du soutien du monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne. Mais avec les difficultés que nous allons connaître en Europe et dans le monde occidental d'une manière générale, puisqu'on est très proche aujourd'hui d'un effondrement financier général, nous n'aurons plus les moyens de soutenir cette mauvaise politique au Proche-Orient. Et c'est bien là l'espoir de la Palestine et des Palestiniens qui veulent se jouer afin que les Palestiniens puissent avoir une partie de territoire et avoir un pays indépendant.
Oui. Monsieur Arnaud Develet, un dernier mot pour terminer. Comment les choses vont évoluer à votre avis?
Je pense qu'elles vont évoluer par rapport à, comme je le disais, la discipline et la patience et la persévérance et la synchronisation des forces de l'axe de la résistance. Avec, et je soulignerai, on a appris aujourd'hui d'ailleurs, hier, enfin il semblerait émerger en tout cas que les Américains ont livré des batteries de missiles patriotes donc aux sionistes les derniers jours, ce qui laisse entendre que le dôme de fer en lui-même, c'est un pacotille. Et une enquête est actuellement en cours par les puissances, le Conseil de sécurité pour vérifier si c'est bien le cas. Si c'est bien le cas, l'ambassadeur à l'ONU de la République populaire de Chine a déjà annoncé que elle prendrait acte de cet état de fait et agirait de manière proportionnée. Donc ça veut dire que la résistance, plus le temps passe, va pouvoir compter sur le soutien chinois et probablement le soutien russe aussi, pour des raisons évidentes par rapport à la présence dans la région, mais aussi parce qu'à un moment donné, de toute façon, il va falloir que l'ordre international et le droit international soient respectés une fois pour toutes, et que les droits des populations ainsi trempées, ne pas être massacrées, le soient aussi. Donc je pense qu'on se dirige vers une confrontation tôt ou tard, c'est inévitable et souhaitable quelque part.
Arnaud Develet, juriste international depuis Damas, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Les craintes concernant l'inflation continuent d'inquiéter sur le marché. Elles se matérialisent désormais dans l'économie réelle. Au micro de Sputnik, Fabrice Drouin-Ristori, le dirigeant d'Or.fr, affirme que les politiques monétaires font poser un danger sur la valeur des devises dollars en tête. Après une semaine compliquée, la bourse de New York a redémarré avec une séance plus que mitigée le 17 mai. Le Dow Jones a terminé en repli de 0,16% à 34,327,79 points. Pas mieux du côté de l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq. Il a cédé 0,38% à 13,379,05 points, pendant que l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,25% à 4,163,29 points. Comment expliquer que des marchés américains habitués à enchaîner des records depuis des mois traversent une mauvaise passe? La raison principale est à aller chercher du côté des craintes d'une hausse généralisée des prix. La réserve fédérale américaine Fed a bien continué à minimiser le risque d'inflation, comme l'a rappelé Peter Cardio de Spartan Capital Securities. Mais pas de quoi faire oublier de récentes données qui préoccupent les marchés. La crise du Covid a changé la donne. L'inflation s'est nettement accélérée en avril aux États-Unis, 0,8%. Sur un an, la hausse des prix a atteint 4,2%, de jamais vu depuis 13 ans. Les 1 900 milliards de dollars dégagnés par Joe Biden au titre de son plan de relance, ajoutés aux plus de 2 000 milliards qu'il souhaite mettre sur la table pour rafraîchir les infrastructures du pays, n'expliquent pas à eux seuls cette hausse des prix. De nombreux économistes accusent d'injections monétaires massives les banques centrales et leur politique ultra-accommodante, faite de taux proches de zéro. Un choix qui a évidemment été celui de la Fed. Jusqu'à récemment, l'effet inflationniste des politiques monétaires des banques centrales n'était pas directement apparent dans l'économie réelle. Il a été contenu car cet argent frais a surtout bénéficié aux membres des cercles de pouvoir, notamment monétaires et politiques, qui ont investi dans les actifs financiers. Analyse au micro de Sputnik, le fondateur d'Or.fr, Fabrice Drouin-Ristori. Un tel schéma était en place depuis la crise de 2008, mais le Covid-19 a changé la donne. Poursuit-il. en dehors de l'oncle Sam, des signes de poussées inflationnistes fleurissent un peu partout. Les coûts à la production ont de nouveau augmenté en avril en Chine. Ils atteignent un peu plus haut en 4 ans, selon la Tribune. Même l'Europe est concernée. Les étiquettes ont valsé en avril du côté de la France 1,2% et de l'Allemagne 2%. Certes, ces données n'ont rien d'affolant. Elles s'expliquent en partie par une hausse des coûts énergétiques. Il n'empêche qu'une tendance bien réelle se dessine. Des signes de pression inflationniste. La hausse du prix des matières premières inquiète du côté des acteurs économiques. D'après le Figaro, les cours se rapprochent de ceux de 2008. Des métaux comme le cuivre, mais également le bois, ou même des céréales comme le blé, voient leur prix s'envoler depuis plusieurs semaines. Quant au prix du pétrole brut, il a connu une hausse d'environ 30% depuis un an. Avec le Covid-19, l'argent a également été distribué directement aux particuliers et aux entreprises, au moment même où les chaînes logistiques mondiales se sont arrêtées, ce qui a réduit l'offre. D'où une première pression sur les prix des produits finis, laquelle s'est répercutée sur le prix des matières premières. Analyse Fabrice Troin-Ristori. La réouverture de l'économie mondiale et ses espoirs de reprise arrivent à un moment où les chaînes logistiques sont toujours perturbées. La forte demande accroît ainsi les cours des matières premières. La forte demande accroît ainsi les cours des matières premières ou des semi-conducteurs qui connaissent une pénurie. Le manque de puces électroniques met en péril la fabrication de nombreux appareils électroniques et d'automobiles. La production de semi-conducteurs majoritairement fabriqués à Taïwan a également souffert des perturbations climatiques qui viennent de frapper l'île. Pour Fabrice Troin-Ristori, les politiques d'impression monétaire illimitée des banques centrales et les perturbations sur les chaînes logistiques expliquent la flambée des prix des matières premières. Un embrasement qui a forcément une incidence sur les prix de détail. Pour le moment, l'inflation reste maîtrisée dans la plupart des pays. Mais la forte poussée enregistrée aux États-Unis pose question. En cas de hausse des prix trop importante, les banques centrales n'auraient d'autre choix que de serrer la vis. Et les conséquences risqueraient d'être spectaculaires. La plus sévère serait le bond des taux d'intérêt et donc l'augmentation du coût de remboursement des dettes pour tous les gouvernements. Rappelons que les banques centrales financent majoritairement les États en achetant les bons du Trésor qu'ils émettent. Cela a pour maintien artificiellement les taux d'intérêt à des niveaux bas, souligne Fabrice Troin-Ristori. Face à la crise du Covid-19, les banques centrales Fed et banques centrales européennes BCE en tête ont massivement acheté de la dette publique et privée par le biais de programmes de rachat d'actifs, d'où une explosion de leur bilan. Celui de la Fed dépasse un tiers du PIB américain quand le bilan de la BCE fait pire. Plus de deux tiers du PIB de la zone euro. Diluer le montant colossal des dettes. Une hausse des taux d'intérêt serait dramatique pour le financement de nombreuses économies. Mais Fabrice Troin-Ristori n'y croit pas, du moins pas dans un avenir proche. L'objectif des gouvernements et des banques centrales est plutôt de diluer le montant colossal des dettes publiques en diluant la valeur des monnaies. Historiquement, c'est très souvent ce qui se passe dans un contexte de dette colossale. La monnaie est sacrifiée. L'expert interrogé par Sputnik invite à s'attarder sur l'évolution du cours de l'or ces dernières années. D'après le site spécialisé bullionbypost.eu, le prix de l'or a connu une hausse d'environ 188% en 15 ans. Mais pour Fabrice Troin-Ristori, le cours de l'or n'augmente pas en termes réels. C'est le pouvoir d'achat de la monnaie qui diminue. Les prix des produits, services en matières premières augmentent, car la valeur de la monnaie baisse. Le pouvoir d'achat des monnaies diminue. L'inflation est une conséquence des politiques monétaires laxistes, certes accentuées depuis la crise du Covid par un choc sur l'offre. D'après le fondateur d'or.fr, la prise de conscience de ce phénomène est récente pour certains. En effet, l'inflation touche maintenant l'économie réelle et donc directement les populations mondiales. Et ses effets sont loin d'avoir fini de se faire sentir à en croire Fabrice Troin-Ristori. Les conséquences seront sévères pour le dollar. Une monnaie de réserve mondiale est censée jouer son rôle de réserve de valeur. Si le dollar ne maintient plus sa valeur, les détenteurs de dollars vendront leurs billets verts pour se réfugier sur d'autres valeurs plus stables comme l'or physique ou des actifs tangibles. L'expert assure que c'est d'ailleurs déjà le cas depuis plus de 10 ans. Fabrice Troin-Ristori rappelle la politique de dédollarisation mise en place par plusieurs pays, dont la Russie. Ce processus souligne que le dollar ne pourra pas rester indéfiniment la monnaie de réserve mondiale alors que la Fed est engagée dans une politique monétaire de destruction de sa valeur pour alléger le poids de la dette américaine.